Salut tout le monde, bienvenue à Sur la glace, édition numéro 8 de la saison, édition du 22 novembre. J'espère que vous vous portez bien. Ça a l'air de rien comme ça, 22 novembre, dans un mois, quelques jours, on va être à Edmonton pour le début du championnat mondial de hockey junior. On va évidemment, au cours des prochaines semaines, s'attarder beaucoup à ça. Les annonces pour les invitations au camp de sélection, j'ai l'impression que ça va être vers le 1er décembre, si on se fie aux dernières années. Le camp est du 9 au 14. Bref, on aura l'occasion d'y revenir. Beaucoup de choses cette semaine dans l'émission. On va s'entretenir un petit peu plus tard avec le président du Titan de Caddy Bathurst. On n'a pas souvent la chance d'aller faire un tour du côté de Bathurst, Serge Thériault, parce qu'au cours de la dernière semaine, la ville de Bathurst a fait une annonce importante pour s'impliquer avec le Titan là-bas. Question d'assurer la pérennité de l'équipe à Bathurst dans la région chaleur là-bas. Alors, c'était de mise de s'entretenir quelque peu avec Serge Thériault. On va également aller faire un tour du côté de Baie-Comeau pour discuter avec le capitaine du Drakkar, Jacob Gaucher. Le Drakkar qui a gagné ses trois derniers matchs. Il n'y avait pas eu beaucoup de positifs depuis le début de la saison avec le Drakkar, mais honnêtement, cette semaine, deux victoires, une autre par jeu blanc. On n'a donné qu'un but au cours des trois derniers matchs, alors l'occasion était belle d'aller faire un tour à Baie-Comeau. Un petit peu plus tard également, au cours de l'émission, je vais revenir sur le reportage qu'on vous a présenté la semaine dernière sur Sean Farrell. On va également parler du défi de la capitale, le tournoi des moins de 17 ans qui commence vendredi à Ottawa. D'ailleurs, je vais me rendre à Ottawa vendredi. Question d'aller faire un petit tour, d'aller couvrir un peu le début de cette compétition. Et comme c'est le cas chaque semaine, on va commencer avec l'actualité entourant le Rocket de Laval dans la Ligue américaine. Le Rocket qui est dans une séquence là, où on joue moins de matchs. On a joué deux matchs la semaine qui vient de se terminer seulement. On n'en a que deux le week-end prochain aussi. Alors, ce sont des plus petites semaines pour la troupe de Jean-François Houle avec pas beaucoup de déplacements, des matchs à Toronto, des matchs à Belleville. Alors, disons que pour le Rocket, c'est une belle occasion là, de peaufiner les préparations, de travailler sur les séances d'entraînement. Et on va également s'entretenir dans quelques instants avec Alex Belzil, l'attaquant du Rocket, qui a débuté la saison à Laval, qui est allé faire un tour avec le Canadien et qui est maintenant de retour avec le Rocket. On lui parle, on vous présente ça, on lui a parlé ce matin, on vous présente ça un petit peu plus tard. Donc, pour revenir sur la semaine du Rocket, comme je le disais, deux matchs. Mercredi, une victoire spectaculaire là, à Toronto, peut-être un des plus beaux retours de l'histoire du Rocket, de la jeune histoire du Rocket de 5 ans. Le Rocket tirait derrière 5-1 après 35 minutes de jeu face aux Marlies à Toronto. On a retiré le gardien partant, Michael McNiven. On a envoyé devant le filet Kevin Poulin, qui avait été rappelé des Lions de Trois-Rivières en raison de la présence de Caden Primo avec le Canadien. Et là, ben, le Rocket a marqué un but en fin de deuxième et trois en troisième période pour créer l'égalité 5-5. La prolongation a été spectaculaire. Je regardais ça, j'étais sur le bout de mon siège. Des chances de marquer de part et d'autre. Jean-Sébastien D pour Laval. Josh Hossang pour Toronto. Finalement, on s'est rendu en ronde de tir de barrage. On a eu besoin de 9 rondes de tir de barrage. C'est finalement Raphaël Harvey-Pinard qui a marqué le but de la victoire. Lucas Vaidemo et Cole Caulfield avaient aussi marqué auparavant en tir de barrage. Donc, victoire de 6-5 à Toronto. Un gros 2 points. Là. Quand tu perds 5-1 à l'étranger en fin de deuxième période et que tu vas chercher la victoire, ça a été tout à l'honneur là, du Rocket de Laval. Après ce match-là, on a ramené Cole Caulfield à Montréal pour le match de jeudi et on a recédé Alex Belzile. Et le Rocket s'est par la suite déplacé du côté de Belleville samedi, où il a subi une défaite de 5-2 avec Kevin Poulin devant le filet. Avec la performance qu'il avait eue mercredi, on lui a redonné le filet pour le match de samedi à Belleville. Ceux qui n'ont pas vu le match disent 5-2, ça n'a pas été vraiment un bon match, mais dans le fond, c'était 3-2 là, en fin de troisième et il y a eu 2 buts marqués dans un filet désert lorsqu'on avait retiré le gardien Poulin, justement. Et dans ce match-là, le Rocket aurait très bien pu avoir un meilleur sort, mais est sorti de là avec une défaite. Donc, résultat des courses, il y a 15 matchs de jouer dans la saison du Rocket. 7 victoires, 7 défaites, une défaite en bris d'égalité. Et cette semaine, ben, un petit week-end à nouveau avec une série aller-retour contre les Sénateurs de Belleville. Vendredi à la Place Belle à Laval, samedi ce sera à Belleville. Je vous signale tout de suite que le match de vendredi n'est pas sur les ondes de RDS, mais il sera diffusé sur le rds.ca. en compagnie de Jasmin Leroux et de Marc-André Dumont qui vont assurer la description. On vous l'a dit, on vous présente les 36 matchs locaux du Rocket cette année, mais il y en a quelques-uns qui sont sur la plateforme web. C'est le cas de vendredi soir, donc ce match-là sera sur le web vendredi avec les images en provenance de la Place Belle pour ce duel entre Belleville et Laval. Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, Brandon Gantz des Monsters de Cleveland, 3 buts, 3 passes, 6 points en 3 matchs. C'est une équipe Cleveland qu'on va voir au cours de la saison. Il y a une autre équipe qu'on a vue il y a quelques semaines, les Comets de Utica ont 13 victoires et aucune défaite depuis le début de la saison. Ils sont parfaits, ils ont marqué 54 buts, en ont donné 24. Ça veut dire, c'est en moyenne qu'on marque 4 buts par match régulièrement et qu'on n'en accorde même pas 2 par match en moyenne pour Utica. C'est vraiment un début de saison spectaculaire. Le Rocket qui a joué un bon match contre les Comets, mais était dans une séquence un peu plus éreintante, un troisième match en 4 jours, un deuxième match en moins de 24 heures. Malgré tout, avait tenu tête au Rocket la majeure partie de la rencontre. Je vous parlais d'Alex Belzile. Évidemment, sa réalité à lui, c'est souvent qu'il se promène du Canadien au Rocket. C'est un bonhomme de 30 ans, connaît le tabac, comme on dit. Et ce matin, avant la séance d'entraînement du Rocket, je dis ce matin là, pour ceux évidemment qui écoutent la balado le 22 novembre, on s'est entretenu avec le sympathique attaquant originaire du Bas-Saint-Laurent. Tel que promis en début d'émission, on s'entretient avec l'attaquant du Rocket de Laval, Alex Belzile. Alex, c'est un retour pour toi avec le Rocket au cours de la dernière fin de semaine. Je sais que ça fait partie de ta réalité, mais comment on se sent à chaque fois lorsqu'on doit refaire le trajet inverse, hein?
Bien, c'est sûr qu'au début, on est déçu un petit peu, là. Ça serait inhumain de pas être émotif par rapport à ça, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. Puis je comprends aussi le côté business du hockey. Donc, souvent, c'est pas parce que tu fais pas bien ou c'est pas négatif, c'est juste circonstanciel. Donc, c'est cette semaine que j'essaie de voir ça. Puis je sais que les saisons sont longues, il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans une saison. Donc, il faut que je garde le moral puis que je permette d'avoir plus de minutes de jeu, de retrouver mes confiances, mes repères, puis de revenir en force là, quand le téléphone m'aura sonné.
Parce que c'est toujours la différence. Le quatrième trio Montréal ou premier, deuxième trio à Laval, c'est complètement une game différente pour toi, là.
Oui, exactement. Mais je pense qu'avec le temps, il faut que tu apprennes à jouer avec pas beaucoup de minutes puis de rester dans la game. Des fois, c'est facile de s'endormir sur le banc ou de quand tu fais un ou deux chiffres ou trois chiffres par période, quand tu embarques, de ne pas nécessairement vouloir t'impliquer ou vouloir la rondelle. Mais je pense que c'est important de rester dans la game. Puis peu importe les chiffres que tu as, de montrer que tu veux avoir un impact, tu veux avoir la rondelle puis que tu prends ta place.
Comment tu as trouvé, comment tu qualifierais tes 8 matchs que tu as joués avec le Canadien cette année?
Je pense que ça a bien été. Pour vrai, je pense que c'était mes meilleures parties. J'ai eu la chance d'en jouer plusieurs d'affilée cette année. Donc, je prenais confiance à tous les matchs. Puis je pense qu'à toutes les chances, à tous les matchs, j'ai eu des chances, j'ai créé des chances à marquer. Donc, ça, je suis content d'avoir amené ça à ma game malgré les petites minutes que j'ai eues. Mais puis de jouer mon rôle d'être tannant en échec avant, d'amener des rondelles en territoire offensif pour que les autres lignes qui embarquent par après, il y ait du momentum.
Comment tu as vécu le premier but de Michael Pezzetta? Je sais que c'est un bonhomme que vous aimez bien, puis tout ça. T'sais. Toi, ça va venir éventuellement, probablement. Je te le souhaite bientôt.
Exact.
Comment tu as vécu ça de voir un de tes buddies comme ça, là, du Rocket, qui a finalement réussi ce premier but-là?
Ben, honnêtement, je suis très, très content pour lui. Puis dès qu'il a été rappelé, là, je disais tout le temps depuis le début de la saison, vous allez voir, c'est fou comment le hockey, ça change vite. Puis, tu sais, un gars comme Michael, que l'année passée, il était in and out du line-up à Laval, puis que même pas 4-5 mois plus tard, il est dans le national, puis il fait sa niche là, donc je pouvais pas être plus heureux pour lui. Puis surtout d'une déviation comme ça, qu'il pratique tellement, ça fait 3 ans qu'à tous les jours qu'il est sur la glace, il fait ses déviations. Donc, tu sais, des fois, le travail dans l'ombre, c'est récompensé une fois comme ça, puis non, j'étais très content pour lui, là.
Je te parlais de la différence de jouer en haut, en bas. Évidemment, on est tous capables d'avoir, mais cette année, il y a une différence d'ambiance aussi, j'imagine, parce que ça ne va pas comme on voudrait que ça irait avec le Canadien, alors qu'avec le Rocket, sans dire que vous êtes au sommet, j'imagine que l'ambiance, ça doit être différent aussi. Est-ce que tu as senti ça, le clash entre les deux?
Ben c'est sûr qu'il y avait une petite différence. J'étais dans une séquence de défaite avec le Canadien, puis on avait, je pense, un peu de misère à trouver de la constance dans notre jeu. Tandis qu'à Laval, il y avait beaucoup de visages familiers. Les gars, c'est différent. Avec les gars du Rocket, il y avait une séquence qui jouait un petit peu moins de matchs, donc il y a plus de temps de pratiquer. Donc, entre les matchs, quand tu as beaucoup plus de temps, tu peux plus comme décrocher un petit peu puis de te refocuser pour le prochain match. Mais avec l'horaire chargé du Canadien qu'il y avait, on joue deux jours, donc c'est dur de se rebâtir une confiance.
Est-ce que quand on te retourne, comme on a fait la semaine passée, on te promet quelque chose ou on te parle, on te dit quelque chose ou c'est tout simplement un appel, hey Alex, tu reprends le métro, tu t'en retournes à Montmorency? Là, je me sens un peu humoristique, là, même si c'est pas toujours facile, comme tu as dit. Est-ce qu'on te parle? Est-ce qu'on te dit exactement des certaines choses à travailler? Ou...
Bien, ça dépend des circonstances. Comme je te dirais aussi, d'après moi, ça dépend des joueurs. Comme moi, ils n'ont pas besoin de trop s'étendre en discussion. Là, comme je sais qu'est-ce qui se passe. J'ai une bonne tête dans le monde du hockey. Je comprends qu'est-ce qui se passe aussi. Donc, juste de me dire, quand tu travailles, c'est pas parce que tu n'as pas bien joué. Au contraire, je pense qu'on était très satisfaits de qu'est-ce que tu nous as donné. Mais c'est les saisons de hockey, c'est long. Puis, comme que je t'ai dit en début d'entrevue, c'est la même chose un petit peu qu'ils m'ont dit. Mais aussi, je suis capable de le voir de mon propre gré. Donc, j'aurais pas besoin d'explication de 5-10 minutes. Là.
Je voudrais te parler, tu as côtoyé Cole Caulfield autant à Laval qu'à Montréal. Il y a beaucoup, évidemment, d'attentes sur lui. Tu sens-tu que sa confiance est minée un petit peu en ce moment, que c'est pas le même gars qu'on voyait l'an passé?
Un petit peu quand même. Je pense que c'est un gars, mais il a quand même ses flashs très dynamiques avec la rondelle. Je pense que c'est un joueur spécial dans un sens que quand tu as un talent pur comme ça, il faut que tu... C'est beaucoup d'offensive et tout, mais il ne faut pas oublier que la game de hockey, dans la Ligue nationale, c'est la ligue la plus dure au monde. Puis il y en a beaucoup de joueurs spéciaux qui sont très offensifs, sont très dynamiques aussi. Donc, un coup qu'on comprend, on commence à comprendre de bien englober notre game puis de ne pas avoir de bonnes et de mauvaises et plus de bonnes et de moins bonnes, mettons. Je pense que c'est là que tu commences à grandir en tant que joueur de hockey. Là.
Vous avez joué contre Belleville en fin de semaine. Si tu me parlais un peu de ce match-là, c'est un match qui était à votre portée jusqu'à la toute fin. Là. Il y a eu deux buts dans un filet désert. Quelqu'un n'a pas vu le match, il dit ils ont perdu 5-2. Mais dans le fond, je regardais, je suivais le match en même temps que celui du Canadien. Vous étiez tout prêt, dans le fond, dans ce match-là? Là.
Oui, exactement. Puis je pense même en deuxième période, là, on a eu jusqu'à la 10e minute de jeu, on était juste dans le territoire offensif. On bourdonnait, puis on a copié deux punitions coup sur coup, puis ça a fait 3-1. Donc, indirectement, là, ça a coupé un petit peu notre momentum, mais on a la chance de rejouer deux fois fin de semaine, puis c'est toujours le fun de jouer contre nos rivaux de Belleville. Ça fait des belles parties émotives.
Tu avais une bonne relation avec Joël Bouchard puis l'ancien personnel qui était là. À quoi c'est différent cette année? Tu sens-tu une grosse différence? Est-ce que les joueurs sont pas mal adaptés là, au nouveau personnel?
C'est sûr que c'est un coaching staff tout à fait nouveau. C'est différent. C'est deux façons de passer leur message, mais tu sais, des fois, tu peux avoir deux bonnes recettes, puis ça fait deux, tu sais, le résultat est pareil au bout. Je pense que GF, c'est plus un player's coach. Il va amener une belle énergie positive, très calme. Pas que Joël n'était pas positif, au contraire, mais il était plus direct dans ses approches. Donc, c'est vraiment deux énergies différentes. Mais comme je te l'ai dit, en ce moment, ça va très bien. Puis on est un bon groupe de joueurs. Donc, on est quand même très expérimenté avec notre line-up. Donc, je pense que ça l'aide.
Avant de te laisser aller, Alex, là, autant avec le Canadien qu'avec le Rocket cette année, tu as joué quoi, une quinzaine de matchs devant des partisans. Ça, j'imagine que c'est toute la différence au monde. Là, l'an passé, vous jouiez au Centre Bell, on entendait les maringouins se promener quasiment. Là, je veux dire, autant à Laval, même là, il y a eu des belles foules à Laval, là, les matchs, surtout quand Cole, justement, est redescendu. Puis ça, il y avait une belle ambiance. Tu n'étais pas là, tu étais avec le Canadien, mais tu as vécu quand même les deux. Là. Tu vois comment c'est important pour le joueur de hockey.
Ah, 100%. Puis je pense que c'est important pour tout le monde. Des fois, c'est quand tu l'as toujours, tu t'habitues puis tu l'apprécies pas autant. Mais là, de ne pas avoir de fans pendant un an, quand ils sont revenus, là, je me souviens même l'année passée dans Bulle, pas dans Bulle, mais dans les séries du Canadien, il y avait juste 2500 personnes, mais ça avait l'air de sonner comme 10 000. Puis là, cette année, on a encore plus, donc c'est vraiment bruyant. Puis je pense que les fans se sont ennuyés aussi, autant de nous qu'on s'ennuyait d'eux. Donc, je pense que ça fait vraiment du bien à tout le monde que d'être de retour. Là.
Fait qu'encore un petit home and home avec Belleville en fin de semaine?
Oui, exactement. Pas deux games de suite, ça prend au même nombre.
Oui, c'est ça, exactement. Et merci beaucoup, Alex, d'avoir pris le temps. Bonne semaine d'entraînement, puis on se parle bientôt. Merci.
Ça fait plaisir, Stéphane. Salut, à la prochaine.
Salut. Toujours sympathique, Alex Belzile du Rocket de Laval, donc qui a fait un petit peu le bilan de ce match-là qu'il a disputé samedi à... contre les Sénateurs et on parlait également des matchs qui s'en viennent dans le cas de Belleville. Et on a fait un petit peu le tour avec lui de son début de saison, lui qui a joué jusqu'à présent le 8 matchs avec le Canadien et 7 avec le Rocket. Il s'est promené entre les deux équipes. Avant d'enchaîner avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec, peut-être un petit mot sur les Lions de Trois-Rivières de la ECHL qui ont disputé 3 matchs contre les Railers de Worcester la semaine dernière. Un match à Trois-Rivières qui s'est soldé par une défaite de 6-2. Et 2 matchs à Worcester, une victoire de 4-1 et une défaite de 3-1. La troupe d'Éric Bélanger a 4 victoires, 7 défaites depuis le début de la saison. Je dirais que c'est un envol un petit peu plus difficile probablement que ce qu'on avait envisagé du côté des Lions, mais évidemment, la saison est bien jeune. On s'en va maintenant faire le tour de ce qui s'est passé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'ai fait le tour des 18 formations. Qu'est-ce qu'on a réussi au cours de la dernière semaine? La meilleure équipe au cours de la dernière semaine a assurément été le Drakkar de Baie-Comeau qui est allé chercher 2 victoires à accorder seulement 1 but. Et le Drakkar de Baie-Comeau, comme je le mentionnais, n'avait que 2 victoires à ses 15 premiers matchs. Si on remonte à dimanche dernier, un peu à la surprise de tous, le Drakkar avait blanchi les Remparts 5-0 à la maison. Et là, on a ajouté 2 autres victoires, 4-1 contre Drummondville et 5-0 contre le Cap-Breton hier après-midi. Donc, on se retrouve maintenant avec 5 victoires et 4 défaites en bris d'égalité. 14 points, ce qui ramène le Drakkar à un seul point des Foreurs de Val-d'Or. Le Drakkar qui commençait à avoir un écart qui se creusait là, avec les équipes de 15e, 16e et 17e place. On rappelle que 16 équipes participent aux séries dans la LHJMQ. C'est quand même tôt, c'est évident, on est au quart de la saison. Mais je suis convaincu que ça a fait du bien à la troupe de Jean-François Grégoire. Un petit peu plus tard, dans quelques instants, on va vous présenter d'ailleurs un entretien qu'on a eu aujourd'hui avec Jacob Gaucher, le capitaine du Drakkar. Incidemment, en marge de cette semaine de succès pour le Drakkar, Olivier Adam, le gardien de but, joueur par excellence de la semaine, 2 victoires, moyen de but alloué de 0,50. Il a donné 1 but en 2 matchs, 1 but contre les Voltigeurs de Drummondville plus tôt cette semaine. Les Olympiques de Gatineau ont fait parler d'eux cette semaine. En fait, il y a un joueur des Olympiques de Gatineau qui a fait parler de lui, c'est Mannix Landry qui a réussi ce fameux but là, toujours spectaculaire, ce qu'on appelle le Michigan Goal ou le but lacrosse, si on veut. Là, il a mis collé la rondelle sur sa palette et contre les Sea Dogs de Saint John, a réussi à déjouer le gardien Jonathan Lemieux pour inscrire un but qui s'est finalement avéré le but de la victoire. Et cette semaine, les Olympiques, qui ont signé 2 victoires en 3 matchs, ont salué le retour au jeu du choix de première ronde des Golden Knights de Vegas en juillet dernier. Zachary Dean, qui n'avait pas joué encore depuis le début de la saison, alors il est finalement de retour avec les Olympiques. Par contre, on a appris une mauvaise nouvelle. Akant Anelt, qui appartient aux Capitals de Washington, le joueur allemand des Olympiques, sa saison est vraisemblablement terminée. Alors, Dean revient, mais Anelt s'en va. Je trouve que dans l'échange, évidemment, Dean est un joueur extrêmement important pour les Olympiques. Les Huskies de Rouyn-Noranda, 2 victoires cette semaine, 3 de suite au total. Une seule défaite en temps réglementaire à leurs 10 derniers matchs. Le gardien Samuel Richard continue d'être très solide. Les Huskies qui jouent du bon hockey et qui talonnent les Olympiques de Gatineau. Je suis allé au match à Boisbriand hier après-midi. J'ai vu l'Armada vaincre les Foreurs de Val-d'Or 4-3. L'Armada qui, samedi, l'avait emporté contre le Phoenix de Sherbrooke 6-2. Dans ce match-là, le choix de première ronde de l'Armada qui évolue dans les rangs midgets, Justin Boissel, a marqué son premier but en carrière dans la Ligue junior majeure du Québec pour l'Armada. L'Armada, donc, qui est allé chercher 2 victoires et qui s'est rapproché là, de Rouyn-Noranda et Gatineau. À l'inverse, les Foreurs, 3 défaites encore cette semaine, 6 défaites de suite au total. C'est un petit peu difficile pour les Foreurs de Val-d'Or par le temps qui court. On a accordé beaucoup de buts au cours des derniers matchs. On a accordé 30 buts, en fait, au cours des 6 derniers matchs, donc 5 buts en moyenne par rencontre. Dans le match d'hier, William Blackburn a été retiré en première période après avoir accordé 3 buts. Les Foreurs n'ont pas lâché. J'ai fait un brin de jasette avec l'entraîneur-chef Maxime Desruisseaux après le match. C'est ce qu'il apprécie là, de sa troupe. C'est évident qu'avec la... On n'aime jamais dire ce mot-là, la reconstruction, là, mais en tout cas, tu sais, le tour. Après l'équipe, après l'édition de l'an passé des Foreurs de Val-d'Or qui s'est rendu jusqu'en finale, qui a perdu contre Victoriaville, c'est sûr qu'on s'attendait à des lendemains un petit peu difficiles. Hein. On a perdu Jacob Pelletier, Samuel Poulain, Nathan Légaré, Jordan Spence, et je peux en nommer plusieurs comme ça, Maxence Guenette. Et finalement, les Foreurs se débrouillaient pas si mal en début de saison, mais là, on dirait que la réalité est en train de les rattraper un petit peu. les Foreurs qui, vraisemblablement, devront se battre pour les séries éliminatoires. Et j'ai fait un brin de jasette également. Je vais présenter ça cette semaine, probablement, au 5 à 7, avec le capitaine Justin Robida, qui s'en met beaucoup sur les épaules. Sa saison n'est pas à la hauteur de ses attentes à venir jusqu'à présent pour l'espoir de 18 ans des Hurricanes de la Caroline. Je suis également allé à Sherbrooke vendredi, où j'ai assisté à une victoire, je dirais peut-être, pas tellement mérité du Phoenix de Sherbrooke contre l'Océanique de Rimouski. L'Océanique qui avait tenu le Phoenix à 9 tirs au but au cours des deux premières périodes, elle menait 3-2. Finalement, à Sherbrooke, comme toute bonne équipe, a réussi à aller chercher une victoire 4-3 en prolongation grâce à un but de Joshua Roy. Mais c'était assurément pas le meilleur match du Phoenix cette saison. Le Phoenix qui a terminé sa semaine avec une victoire, une défaite et une défaite en bris d'égalité en prolongation hier contre les Tigres de Victoriaville. Mais samedi, Sherbrooke, c'est vraiment fait battre par l'Armada 6-2. Shawinigan, une victoire, une défaite. C'est difficile pour les Cataractes. On a de la difficulté à prendre un certain rythme. L'absence de Maverick Bourque se fait sûrement sentir. 6-1, une défaite à la maison contre Drummondville hier après-midi. Au cours du week-end, Xavier Bourgault a atteint le plateau des 16 buts. C'est un sommet dans le circuit à égalité avec William Dufour des Sea Dogs de Saint-John. Les Voltigeurs de Drummondville, une victoire en 3 matchs cette semaine. C'était 3 matchs à l'étranger. On est allé chercher une victoire, comme je le disais, à Shawinigan hier, 6-1. Les Tigres de Victoriaville, une victoire et une défaite. L'Océanique de Rimouski, j'ai vu le match de vendredi. Ils ont été chercher un point de classement contre Sherbrooke. C'était pas facile, mais ils ont remporté une victoire contre Chicoutimi hier. Ils ont stoppé la série de victoires des Sags. Parlant des Sags, 2 victoires et une défaite au cours de la semaine. Ça faisait 5 victoires de suite avant que les Sags ne s'inclinent hier contre Rimouski. Félix Lafrance continue de faire du très bon travail. Il a 33 points en 17 matchs au deuxième rang des pointeurs du circuit. Dans le cas des Remparts, dans cette division-là, ben 2 victoires, une défaite également pour Québec cette semaine. Québec a échappé à un match qui normalement n'aurait pas dû perdre contre le Cap-Breton vendredi à la maison. C'est au moins 2 matchs là, au cours des dernières semaines que les Remparts n'auraient pas dû. En tout cas, on ne prévoyait pas que les Remparts échappent. La visite à Baie-Comeau 5-0 et ce match-là à la maison contre le Cap-Breton. Le Drakkar, je vous en ai parlé, s'est replacé avec ses 2 victoires. Les Islanders de Charlottetown dans les Maritimes continuent de rouler. 2 autres victoires, 13 buts marqués. L'espoir du Canadien Xavier Simoneau a récolté 6 points en 2 matchs. Il est actuellement le premier pointeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec 34 points en 17 matchs. Ça a été plus difficile pour Moncton au cours de la dernière semaine, qui a perdu 3 matchs, mais qui est allé chercher quand même 2 points de classement avec 2 défaites en bris d'égalité. Moncton, qui est toujours deuxième de la section, ça c'est un peu une surprise depuis le début de la saison, 23 points. Les Mooseheads ont effectué leur premier voyage au Québec en près de 2 ans. C'était la seule équipe des Maritimes qui n'était pas venue au Québec encore. Une victoire en 3 matchs pour les Moussettes acquises contre les Foreurs de Val-d'Or dans un match où le gardien Brady James a effectué 47 arrêts. Les Sea Dogs de Saint-John, une victoire en 3 matchs également à l'étranger. Eux aussi, ils ont gagné leur rencontre à Val-d'Or. William Dufour, j'en parlais, 16 buts. Le Titan de Caddy Batters, 1 gain et 1 échec. Et les Eagles du Cap-Breton, qui ont déjà fait leur 2e voyage au Québec, ont été chercher une victoire à Québec contre les Remparts, mais ils ont perdu contre les Saguenayens et ils ont perdu contre le Drakkar. Parlant du Drakkar, ben, je vous le disais un petit peu plus tôt, là, une bonne semaine, une bonne séquence, une première cette saison. 3 victoires en une semaine après en avoir gagné seulement 2 dans les 15 premiers matchs. Je vous présente cet entretien qu'on a réalisé un petit peu plus tôt aujourd'hui avec le capitaine Jacob Gaucher. Je vous en parlais un petit peu plus tôt, le Drakkar de Baie-Comeau a connu une excellente semaine depuis dimanche dernier. On se dirait, qu'est-ce qui se passe avec le Drakkar? Alors, c'est pour ça que ça m'a tenté de me tourner vers le capitaine de l'équipe, Jacob Gaucher, de faire un brin de discussion. On n'a pas eu la chance, Jacob, depuis le début de la saison, de parler souvent positivement du Drakkar. Il y avait seulement 2 victoires avant dimanche dernier. Et là, vous tombez dans une séquence, 3 victoires de suite, 2 jeux blancs. Vous avez donné seulement un but dans les 3 derniers matchs. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine?
Ouais, comme tu dis, au début de l'année, il y a eu des moments plus difficiles. On a eu une dure défaite à Québec vendredi soir. Une défaite, je pense, de 6-1, quelque chose comme ça, à Québec. On s'est regardé dans le blanc des yeux après la game. On a fait face à la musique. Puis après ça, on a eu 3 grosses performances de l'équipe. Là. Le gardien a très bien gardé les buts. Puis je pense que c'est positif pour le futur. Là.
Je regardais vos résultats depuis le début de l'année. On dirait qu'il y avait toujours, quand l'attaque marchait bien, vous donniez beaucoup de buts. Quand vous ne marquiez pas beaucoup de buts, ben vous n'en donniez pas beaucoup. On dirait qu'on n'arrivait pas à mettre les deux aspects de la game ensemble en même temps. Puis là, ben,
C'est ça qui s'est passé dans la dernière semaine.
Ah, c'est ça, exactement. On perdait beaucoup de matchs par un but, en prolongation, en fusillade. Fait que c'était des défaites difficiles, mais là, je pense que ça a connecté pour les derniers matchs, là.
Jacob, bon, tu as passé ta carrière junior avant cette année avec les Foreurs de Val-d'Or. L'an passé, tu as eu la chance de vivre la finale jusqu'au bout. Je sais que ça n'a pas été le résultat escompté. Quand tu as appris que tu t'en allais à Baie-Comeau à 20 ans, puis c'est une équipe un peu en reconstruction, comment tu as vécu avec cette nouvelle-là?
Ah ben, en fait, je l'ai su un peu par surprise après la défaite, là, au lendemain de la défaite en finale. Surtout que ça m'a. J'étais sous le choc un peu au début, mais après ça, tu sais, j'étais vraiment content parce que c'était un bon défi. Je savais que j'allais avoir un bon rôle dans cette équipe-là, puis je voulais relever le défi d'aider les jeunes à se développer, à bien se développer, puis aider l'équipe à gagner. Là.
On t'a nommé capitaine, même si tu arrivais à nouveau joueur, ça dénote un peu le rôle que tu dois avoir dans ton équipe en ce moment, là.
Moi, ça, je suis vraiment content de ça. J'essaie d'être le meilleur leader pour mon équipe. J'ai eu la chance d'être assistant à Val d'Or dans une grosse équipe comme l'année passée. Puis j'essaie d'amener mon expérience à toute l'équipe, là.
D'habitude, quand on a 20 ans, on se dit que ce serait le fun que j'ai une chance de gagner pour terminer ma carrière junior. Là, en ce moment, sans dire que le Drakkar ne gagnera pas, le Drakkar est une équipe de troisième portion. Est-ce que ça, c'est déjà quelque chose qui te trotte dans la tête au niveau des transactions possibles, peut-être dans le temps des fêtes, ou si on a déjà été clair avec toi à ce niveau-là?
Non, ben j'en ai pas vraiment parlé. C'est sûr que tu sais, j'entends des échos par-ci, par-là, mais j'essaie de pas trop me focusser là-dessus, juste me focusser sur ma game, puis on verra ce qui arrivera au période des fêtes. Mais c'est sûr que moi, j'aimerais ça continuer à aider le Drakkar à progresser là, pour l'instant.
Baie-Comeau, Val d'Or, est-ce que c'est deux marchés semblables?
Oui, mais c'est des villes de hockey. Tu sais, t'as déjà été à Val d'Or, à Baie-Comeau probablement. Les fans sont vraiment dans le match. Tu le ressens de plus en plus. Là, au début de l'année, c'était peut-être plus difficile, mais là, avec nos récentes victoires, je pense qu'on sent que les gens sont dans les matchs. C'est des villes de hockey, puis c'est des beaux marchés juniors, là.
La participation aux séries, c'est ça le but pour le Drakkar. Tu sais, ça fait toujours bizarre de dire hey, on veut participer aux séries quand il y en a 16 sur 18 qui participent aux séries, mais ça reste qu'avant ces trois matchs-là, cette semaine, on commençait à voir un écart qui est en train de se creuser. Là, vous êtes revenu vraiment là, tout près des équipes là, qui vont se battre vers ces positions-là.
Non, c'est ça, on voulait revenir dans cette bataille-là. Je pense que les premiers matchs, comme j'ai dit tantôt, on a perdu beaucoup de matchs par un but ou en prolongation, c'est des points qu'on a laissés sur la table. Je pense qu'on a une meilleure équipe que la dernière au classement général, puis on va essayer de le prouver jusqu'à la fin de l'année.
Jacob Gaucher, on le connaît un peu, le joueur. On connaît aussi ton parcours au niveau des études. Je pense que tu es très en avance sur la moyenne des gens. Comment tu réussis, même en jouant à Val-d'Or et à Baie-Comeau, là, à poursuivre des études universitaires et tout ça?
Le seul temps possible, puis d'être discipliné dans mes études. Là, des journées comme aujourd'hui, des journées que tu ne sais pas trop quoi faire, au lieu d'aller écouter la télé ou whatever, tu essaies de faire des devoirs, t'avancer le plus possible sur la route. Je pense que ça va quand même bien avec mes cours en ligne. Ça fait quelques années que j'ai cette routine-là, puis en étant discipliné, puis en se concentrant sur mes objectifs, je pense que je réussis à bien le faire.
T'en es où dans ton parcours scolaire en ce moment, si je peux me permettre de demander?
Présentement, je pense que je vais compléter mon 17e cours universitaire là, après wow. Cette session-ci.
Ça, c'est quelque chose pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent là, au niveau junior. Jacob, il faut que je te parle de ton frère qui est un espoir très important pour le repêchage cette année. Il joue pour les Remparts de Québec. Est-ce que vous êtes en communication constante? Vous jouez souvent Baie-Comeau contre Québec, évidemment. Comment ça se passe, la relation, là?
Non, c'est ça. Ben, avant Val-d'Or, on ne jouait pas souvent contre Val-d'Or. Québec, ça arrivait moins souvent. Cette année, on s'est déjà rencontré trois fois jusqu'à date. C'est toujours le fun de jouer contre son frère. Ils ont une bonne machine d'hockey à Québec. On a eu la chance de les battre la semaine passée. Ça fait du bien. Mais honnêtement, on est en constante communication. Je veux le meilleur pour lui. Puis, je suis vraiment content de tout ce qui arrive. Il le mérite. Il travaille fort pour. Puis, c'est un excellent joueur d'hockey. Donc, je pense que c'est positif pour la suite, là.
Toi, tu as eu deux invitations à des camps professionnels. Tu es allé avec Las Vegas, je pense, cette année. Est-ce que tu as mis une croix là-dessus, rendu à 20 ans, puis tu te vois plus aller à l'école? Ou comment tu vois la suite des choses au niveau hockey pour toi?
Non, c'est ça. Il y a encore, mon agent est encore en communication avec des équipes, tout ça. J'ai encore l'objectif de jouer au hockey professionnel, que ce soit l'année prochaine, dans quelques années. J'ai cet objectif-là dans la tête depuis que je suis entré junior. Si ça arrive, je vais être très content, c'est mon objectif. Mais sinon, comme tu le dis, ça va être le hockey universitaire probablement.
T'es vraiment un bel exemple, Jacob. Je suis content d'avoir pris le temps de jaser un petit peu avec toi. Bonne chance pour le Drakkar pour la suite des choses. On va évidemment suivre ça de près. Je veux juste te laisser en terminant. Moi, j'entends beaucoup la rumeur que tu pourrais aller avec les Remparts à Noël. Est-ce que ça te fait sourire? Est-ce que tu entends parler de ça?
Ça me fait sourire parce que c'est le premier réflexe des gens de dire oh, tu vas aller rejoindre ton frère, mais tu sais, j'ai rien entendu là-dessus. Puis, il va arriver ce qui va arriver à Noël, puis je lui souhaite le meilleur, là.
Moi, je l'ai entendu un petit peu, je vais juste te le dire. On va finir là-dessus. Hey, merci beaucoup, Jacob. Bonne continuité, puis on se recroise très prochainement.
Ouais, merci beaucoup.
17 cours universitaires de compléter, ou on est en train d'en compléter un 17e pour Jacob Gaucher du Drakkar de Bécomo, qui a joué aussi à Val-d'Or, joue dans des endroits où on voyage beaucoup. Lui, c'est un phénomène là, au niveau des études. Même quand il était dans les rangs midget avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe, il avait déjà commencé des cours universitaires. Chapeau, on n'en parle pas assez des fois des études, mais ce jeune homme-là est assez impressionnant. Et il joue avec le Drakkar de Bécomo. Je ne sais pas quelle direction le Drakkar va prendre à la pause des fêtes. Comme je le mentionnais, est-ce qu'on va l'échanger? J'entends des rumeurs qu'il pourrait se retrouver à Québec. Évidemment, il faudrait que les Remparts libèrent un espace de joueurs de 20 ans. Ça reste à voir. Mais c'est un joueur qui a quand même connu la grande finale de la Ligue junior majeure du Québec l'an dernier avec les Foreurs de Val-d'Or. Et avec son frère Nathan, ben, ce serait évidemment un naturel. On verra bien. Avant de poursuivre avec le Titan de Caddy Batters, peut-être des nouvelles de l'Ontario et de l'Ouest. Dans l'Ontario, les Knights de London continuent de très bien se débrouiller. 13 victoires, 3 revers, une défaite en bris d'égalité. Le Battalion de North Bay va bien également avec 12 victoires, 6 revers et une défaite en bris d'égalité. Le gardien numéro 1 du Battalion de North Bay s'appelle Joe Verbeek. C'est un espoir du Canadien qui a été repêché en 7e ronde par le Canadien lors de la dernière séance de sélection. Un gardien de but de 6 pieds, 6 pouces. On aura peut-être l'occasion de vous parler très prochainement. Verbeek qui a vraiment le physique du gardien de but moderne, si on veut, un grand gardien. Dans l'Ouest, il y a vraiment 4 équipes qui se distinguent depuis le début de la saison. Je vous ai parlé déjà à quelques occasions du Ice de Winnipeg qui a 20 matchs de jouer, 19 victoires, une défaite. Les Silver Tips de Everett dans la division américaine, 15 victoires, une défaite en bris d'égalité. On n'a toujours pas perdu à la régulière en 16 matchs du côté des Silver Tips. Kamloops est 14-2 et Edmonton 14-3-3. Alors, on parle vraiment là, de 4 formations là, qui sont parties sur les chapeaux de roue là, ce premier quart de saison dans la Ligue junior de l'Ouest. Je vous le disais la semaine dernière, la ville de Bathurst, de concert avec le Titan, a organisé une conférence de presse qui a été très importante pour les gens là-bas dans la région. On le sait, le Titan, c'est difficile avec les assistances, c'est difficile au niveau financier depuis quelques années. Et là, bon, on a agité un drapeau là, du côté de l'organisation. Pour faire savoir qu'on aurait de la difficulté là, si les choses ne se replacent pas à maintenir la pérennité de l'équipe à Bathurst. Le Titan qui approche les 25 ans à Bathurst, les Oggy Morissette avaient déménagé le Titan de Laval à Bathurst en 1998. Alors, on approche les 25 ans. Depuis 2013, c'est un nouveau groupe de propriétaires qui est là, avec à sa tête le président de ce groupe-là, Serge Thériault, qui est un gars de la place là-bas. Et ce matin, on a fait un brin de jasette avec lui pour justement tenter de cerner là, comment ce dossier-là se développe du côté du Titan de Caddy Batters.
Je vous en parlais en début d'émission. On s'entretient maintenant avec le président du Titan de Caddy Batters, Serge Thériault, qu'on rejoint au Nouveau-Brunswick. Serge, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez fait une annonce importante la semaine dernière avec la mairesse de Batters pour un peu rassurer peut-être la population, les partisans du Titan là, dans la région Chaleur et la péninsule acadienne. Est-ce qu'on était rendu à un point là, où ça devenait vraiment important là, que la ville s'implique là, pour la pérennité de l'équipe à Batters?
Oui, certainement. On était rendu au point où est-ce qu'on les propriétaires qui restaient, on est une douzaine de propriétaires, qu'on se disait on ne peut pas tenir l'équipe à nous tout seul. Ça nous prenait un partenaire ou un oui, financièrement, c'est une bonne entente, mais ça nous prenait aussi un partenaire pour être capable de faire marcher ça pour qu'on ait les 2500 personnes minimum par match pour que ça soit une belle réussite pour la région.
Est-ce que ce que vous avez, sur le quoi vous vous êtes entendu avec la ville, ça répond à ce que vous aviez pensé? Est-ce que ça va être suffisant là, pour, comme on dit, tourner le coin?
Bien, je pense que c'est une bonne base. Est-ce que c'est suffisant? C'est sûr, si on maintient seulement 1500 personnes par match, c'est pas 200 000 qui va être suffisant. Il faut... la seule chose, par exemple, c'est une belle aide financière. Je pense que ça répond à certaines de nos exigences ou des demandes qu'on avait parce qu'on avait besoin de ça. Mais d'un autre côté, c'est le partenariat qu'on va faire aussi avec la ville de qu'est-ce que c'est qu'on a fait des dernières semaines, qui, c'est la direction qu'on s'en va qui est intéressante, que je pense qu'il va nous aider à avoir le 2100, 2500 de moyenne éventuellement.
L'équipe est abatteuse depuis presque 25 ans. Vous, vous êtes propriétaire de le nouveau groupe depuis 2013. Est-ce que vous pensiez que ça pourrait devenir aussi difficile de continuer tout le temps? Tu sais, vous êtes, on l'a déjà dit, vous avez gagné la Coupe Memorial en 2018 en évoluant dans un des plus petits marchés là, de la Ligue canadienne de hockey. Avec la pandémie qui n'a pas aidé en plus, les gens doivent comprendre qu'au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas eu le même soutien provincial que les équipes du Québec ont eu. Est-ce que la concession est en danger ou elle l'était avant cette annonce-là? Là?
C'est certain qu'elle l'était à un moment donné. C'est que les propriétaires, on se disait, OK, comment longtemps est-ce qu'on va être capable de soutenir un déficit annuel? Puis à quelle envergure de ce déficit annuel? Comme tu dis, la pandémie l'an dernier a fait vraiment mal. L'année d'avant aussi, ça a été très difficile. Ça fait que là, on était rendu au point où on se disait, OK, comment longtemps est-ce qu'on va être capable de soutenir ça? Là, avec l'entente qu'on a avec la ville de Bathurst, nous permet d'être capable de dire, OK, on n'est pas les seuls à soutenir l'équipe, puis de travailler en équipe de façon à ramener les gens à l'aréna. On dirait que les gens le veulent, ils sont intéressés, mais on dirait qu'ils ne viennent pas à l'aréna, ils ne se rendent pas, ils font pas le step là, de venir voir un, deux, trois matchs dans la saison. C'est tout ce qu'on a besoin, vraiment. C'est d'avoir de 10 à 15 000 personnes qui veulent voir trois matchs dans l'année parce qu'on a notre 1 000 à 1500 de base qui va toujours être là. L'autre 1000 personnes qu'on a besoin, c'est seulement des gens qui veulent voir 3-4 matchs par année, puis on va être capable d'avoir notre 2500 de moyenne.
Concrètement, Serge Thériault, on fait quoi pour les amener, ces personnes-là?
C'est sûr que cette année, on s'attendait peut-être à un meilleur début de saison de notre équipe. Là, on ne se cachera pas, on joue en deçà de nos attentes là, présentement. On a une équipe qui peut aller vraiment loin en série, on le sait, on le voit, sauf qu'on ne le voit pas toujours. On le voit une période sur deux ou deux périodes sur trois, puis d'un coup, on passe au neutre. Ça fait que c'est certain que ça, on s'attendait à avoir une meilleure performance sur la glace qui aide. La réalité, les gens veulent voir des équipes gagner, là, on ne se cachera pas. Ça, c'est un atout, c'est sûr. On est en train de travailler différentes choses pour la vente de billets, différentes façons. C'est ça qui est intéressant avec la ville de Bathurst aussi. Là. On est en train de regarder comment impliquer plus les municipalités environnantes. Parce qu'on a quand même une équipe qui est régionale. Tu sais, c'est pas seulement une ville. Fait que ça, c'est sûr que ça rend une complexité parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une heure de voyageage à faire. Ça fait s'il annonce du mauvais temps, puis quelque chose, c'est plus difficile. Mais on est en train de travailler différentes façons là, de ramener les gens à l'aréna. Puis le produit, on travaille beaucoup avec les jeunes. Je pense que les jeunes, notre marché est quand même très intéressant parce que je pense qu'il est conquis de ce côté-là. À ce temps, il reste à tirer plus sur la manche de papa et maman puis dire on va aller voir les matchs. Là. Mais ça s'en vient. On travaille beaucoup avec les organisations d'hockey mineur, des choses comme ça. T'sais, notre équipe est quand même beaucoup impliquée dans la région. Là.
Il y a à peu près trois semaines, quand le premier mois, le mois d'octobre s'est terminé, j'ai publié un article où j'avais figuré à peu près qu'on avait 22 % de retard d'assistance par rapport à il y a deux ans. On ne pouvait pas comparer avec l'an passé, évidemment, mais par rapport à deux ans. Puis à part Gatineau, là, qui ont une nouvelle amphithéâtre, les 17 autres marchés, ça avait baissé. Une des conséquences, une des choses que je lisais sur l'article, les gens ne veulent pas porter le masque à l'aréna. Est-ce que ça, tu sens que c'est une des raisons qu'on donne en ce moment chez vous aussi?
Un peu. C'est certain qu'il y a des gens qui craignent encore, qu'ils n'aiment pas ça. Puis je ne les blâme pas, là. C'est pas plaisant. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils se donneraient une chance quand même d'aller voir parce que le système en place est vraiment efficace. Les gens, c'est bien fait. Fait que moi, quand je vais voir mes matchs, je porte mon masque, puis je l'oublie, là. T'sais, à un moment donné, tu n'y penses plus. Puis l'ambiance est vraiment le fun. Ça fait que je pense que les choses sont en place pour que les gens peuvent avoir une belle soirée quand même. C'est juste une question de dire, OK, je vais aller. Puis le risque de contamination, des choses comme ça, les restrictions sanitaires sont vraiment bonnes. Ça fonctionne si les gens le suivent. Ça fait que, tu sais, je pense qu'il faut qu'ils convainquent les gens un peu plus à cause de la pandémie que, OK, c'est sécuritaire d'aller à l'aréna. Puis vraiment, le travail est bien fait au niveau de la ville de ce côté-là.
Vous me disiez tantôt, vous êtes encore une douzaine d'actionnaires dans l'équipe. Je pense avoir entendu, j'écoutais votre conférence de presse la semaine dernière, un déficit de quoi, 500, 600 000 $ à peu près d'accumulation?
Oui, l'année dernière, l'année d'avant aussi, là, a été quand même un gros déficit. C'est certain, les deux dernières années ont été très difficiles au niveau du guichet puis au niveau de la pandémie. Comme tu dis, on n'a eu aucune aide gouvernementale provinciale. Donc,
est-ce qu'il y en était question de ça à un certain moment? Parce que je sais, moi, ce que j'ai entendu, je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais il y a trois équipes au Nouveau-Brunswick. Il y en a une qui appartient à Irving, il y en a une qui appartient à McCain. On n'a pas vraiment besoin de les aider, mais le Titan est là aussi. Là,
oui, c'est plaisant de voir ces gens-là au niveau du hockey junior majeur. C'est même bien pour la Ligue, mais... Pour nous autres, au niveau des Titans, c'est sûr que quand tu approches le gouvernement pour de l'aide financière, puis il regarde, puis il dit, ouais, ben, sorry, mais si on vous aide, les deux autres vont vouloir avoir leur aide, qui est normal, oui. J'imagine. Oui. Puis ils disent, ben, sorry, mais nous, on ne croit pas aider ces gens-là, tu sais, pour le hockey. Nous autres, on essaie de dire, c'est plus que juste du hockey, mais au niveau gouvernemental, là, c'est...
C'est sûr. Serge, je veux te parler de hockey avant de te laisser aller un petit peu. Là. Vous êtes allé chercher Hendrix Lapierre. Il n'était pas là en début de saison, mais là, il est de retour. Est-ce que ça, tu as senti que ça avait un certain impact? Parce que c'est quand même un joueur qui a joué dans la Ligue nationale cette année. C'est un gars qui risque de représenter le Canada au championnat du monde junior. Pour vous, là, c'est une belle carte d'attraction.
Ah, oh, exactement. Puis Hendrix Lapierre a toute une belle personnalité aussi. Ouais. Là. Je pense qu'il faut profiter que ce jeune-là, ce gars-là peut amener beaucoup. Comme tu dis, les gens vont vouloir venir le voir. Je pense que c'est tout un joueur de hockey. Il est vraiment beau à voir. Là. Je l'ai vu au premier match qu'il a joué chez nous. Puis ça va être spécial. Tu sais, je pense qu'il va repogner ses repères. Là. C'est normal. Tu arrives de la Ligue nationale, tu tombes au niveau junior. Il y a toujours une période d'adaptation. Tes nouveaux coéquipiers, c'est nouveau quand même pour lui. Là. Mais oui, je pense que ça va aider au guichet. Puis on ne se cachera pas, là. À Bathurst, nous autres, quand même, quand on a une équipe gagnante, au guichet, ça se fait juste sentir normalement à partir du mois de janvier.
Ouais.
C'est la malheureuse. C'est, on fait partie d'une communauté qui est rurale, que les gens aiment aller à la chasse dans le bois et différentes choses. Puis ça se passe jusqu'à la fin novembre. Ça fait que après ça, normalement, ça augmente.
Est-ce que le Titan d'Acadie Bathurst va tenter de s'améliorer dans la période des fêtes pour pouvoir peut-être aller jusqu'au bout cette année? Parce que j'étais d'accord avec toi pour dire que vous aviez peut-être un début de saison difficile, mais vous avez quand même une bonne base, une bonne formation. Là.
Oui, c'est sûr que les ingrédients sont en place. Comme je dis, là, c'est plus à Sylvain, là, qui va gérer cette partie-là. Mais on ne pèse pas le bouton panique non plus. Là. On ne veut pas dire on va tout changer d'équipe parce qu'on a une fiche de 500. Là. Je pense que les ingrédients sont en place. Là. C'est ça qui était notre but au début de saison. C'était être patient à Noël. Je ne pense pas qu'on va décoller les ventes aux enchères parce qu'on avait quand même fait en allant chercher la pierre, je pense qu'on avait quand même fait notre part du gâteau là, au début. Mais ça ne veut pas pour dire qu'on ne va pas bouger non plus. Là. Ça, je laisse ça dans les mains à Sylvain, mais je pense qu'on a quand même des ingrédients en place qui sont intéressants.
Serge, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous et d'éclairer un peu la situation de Batters pour les auditeurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bonne chance, bonne continuité. Puis, je pense que je vais me porter un petit peu le porte-parole. Merci de l'implication parce que ce n'est pas toujours évident. On n'est pas dans le business de hockey junior pour faire de l'argent nécessairement. Puis, je pense que vous en êtes la belle preuve. Merci beaucoup, Serge.
Merci, Stéphane. Ça fait plaisir.
Alors voilà, un petit voyage à Bathurst, un petit voyage à Baie-Comeau auparavant. On a fait le tour un petit peu des nouvelles de la dernière semaine. Je veux revenir sur certains dossiers avant de mettre un terme à cette balado-diffusion. D'abord revenir, et je l'ai fait vendredi soir au 5 à 7 avec les collègues Frédéric et Yannick. C'est pas une question de faire une montée de lait ou quoi que ce soit, mais on a présenté la semaine dernière un reportage, on en avait parlé ici d'ailleurs à la balado-diffusion avec Sean Farrell, c'est ici qu'on en a parlé en premier la semaine dernière, on a par la suite diffusé le reportage à Hockey 360 sur la RDS.ca. Son entraîneur-chef à l'Université Harvard, Ted Donato, qui est un ancien de la Ligue nationale, qui a connu une belle carrière et qui dirige Harvard depuis 19 ans, nous a dit dans le reportage, Sean Farrell, si vous me demandez de le comparer un peu, je vois des flashs, il me rappelle Matt Snaslund. Et là, encore une fois, sur les médias sociaux, sur les réponses qu'on a sur RDS.ca, ça dérape de tous bords, tous côtés. Ça ne veut pas dire que parce que Ted Donato a dit « il me fait penser à Matt Snaslund », que là, il faut aller taper sur l'ordinateur, trouver les statistiques de Matt Snaslund, dire « Ah, il a fait 110 points d'une saison, Farrell va faire 110 points d'une saison dans la Ligue nationale. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça du tout. On a fait des comparaisons de plein de joueurs avec plein de joueurs. Des fois, les gars ont les mêmes genres de caractère. C'est pas les Cole Caulfield l'année passée. On dit, bon, Alex DeBrincat. C'est sûr que c'est le même genre de joueur qu'Alex DeBrincat. Est-ce qu'il va avoir autant de succès qu'Alex DeBrincat? Est-ce qu'il va en avoir moins qu'Alex DeBrincat? On le sait pas. On le sait pas. Personne le sait. Le coach le sait pas. Moi, je le sais pas. Puis vous, vous le savez pas non plus. Il faut, tu sais, les gens nous demandent de vous parler des espoirs qui s'en viennent du Canadien, de tenter de les faire connaître. Mais c'est pas de dire, hey, Sean Farrell, là, c'est Matt Naslund numéro 2. Là. Hey, il va faire 110 points, il va gagner la Coupe Stanley canadien. Parce que là, je vois des choses passer. Bon, Leroux, encore un sauveur qui arrive. T'sais? J'ai jamais dit que c'était un sauveur. Je suis allé faire un reportage avec le kid pour le connaître moi-même et vous en parler. Et on demande, parce que les gens demandent ça, là, il fait penser à qui? T'sais, je me souviens, Alexander Romanov, là, quand on en parlait avant qu'il arrive, moi, je disais un peu à la... Pas à la blague, mais je disais un peu... C'est Francis Bouillon de 5 pieds 11, de 4 pouces de plus. T'sais? Et là, hein, Bouillon, c'est pas bon. Pardon. Bouillon a joué 776 matchs dans la Ligue nationale. Si Alexander Romanov en joue 776, là, ça va être tout un choix du Canadien. Est-ce qu'il va devenir plus offensif? On ne sait pas. On ne le sait pas. On essaie là, de trouver des comparables, mais à ce jeu-là, on ne gagne jamais. Parce que si on a le malheur de dire « Hey, il me fait penser à un tel », tout le monde pense, ah, regarde, Leroux, il dit que ça va être un autre comme ça. Je n'ai pas dit ça. Moi, premièrement, je n'ai rien dit. C'est Ted Donato qui a dit qu'il faisait penser à Matt Naslund. Moi, j'ai été la courroie de transmission. J'ai posé la question à Ted Donato, est-ce qu'il te fait penser à un joueur en particulier? Moi, j'y avais suggéré un Tyler Johnson, que moi, je trouvais que c'était peut-être un peu le même genre de joueur. Il dit, ouais, peut-être, mais moi, il me rappelle Matt Naslund. Là, on y met trop de pression. Regardez encore, les médias montréalais mettent de la pression. Si on dit que les joueurs du Canada... J'ai le collègue Mathias Brunet de la presse cette semaine a mis un tweet à un certain moment sur son compte Twitter. Si on dit que le joueur va être bon, c'est parce qu'on veut être fin avec l'organisation puis qu'on cherche une job de dépisteur. Si on dit qu'il n'est pas bon, on fait encore du bashing canadien. Ben non, c'est pas ça. On essaie juste de faire la job le plus honnête possible. Puis les gens aiment ça, essayer d'avoir un comparable. J'ai dit à la blague au 5 à 7, puis je vais la répéter ici. Si tu vas prendre un verre dans un bar avec un de tes chums, puis tu vois une femme, une fille un peu plus loin là-bas, regardons ça, de loin comme ça, elle ressemble à Jennifer Lopez. On est-tu d'accord que c'est pas Jennifer Lopez, puis ce sera jamais Jennifer Lopez, mais elle te fait penser à elle. Peut-être Donato, c'est la même affaire. Il voit Sean Farrell jouer, il dit, elle me fait penser à Matt Naslund. Il sera jamais Matt Naslund, il te fait penser à lui. C'est tout. Il ne faut pas essayer de voir plus loin que ça. C'est pas la première fois que je parle de ça, puis je vais vous le dire, là, par bout, des fois, là, je viens comme un peu exaspéré de voir des commentaires passer. On n'est pas là pour sauver la job de personne du Canadien. On n'est pas là pour les faire passer meilleurs qu'ils sont, puis on n'est pas là pour les faire passer moins bons qu'ils sont non plus. On essaie de faire une job honnête. Fin de la parenthèse sur Sean Farrell. Les collègues du journal du quotidien Le Droit à Ottawa ont publié la semaine dernière, ont lancé sur leur plateforme, ceux qui sont abonnés au journal Le Droit, puis qui sont des amateurs des Olympiques de Gatineau, il y a un documentaire qui a été signé par Patrick Woodbury, qui est un photographe du journal Le Droit. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est un hommage au vieux Bob. Ça dure une vingtaine de minutes. Il y a des entrevues, des bonnes images avec ceux qui ont marqué un peu l'histoire de l'aréna Robert Gartin à Gatineau. C'est une longue histoire. Évidemment, on n'a pas tout dans ces 20 minutes-là, mais si ça vous tente, si jamais vous pouvez mettre la main là-dessus via un abonnement au quotidien Le Droit, ben je salue les collègues de travail qu'ils ont fait, Jean-François Plante aussi, qui est impliqué là-dedans notamment, que je salue. La Ligue canadienne de hockey a annoncé deux nouvelles importantes la semaine dernière. Premièrement, le match des meilleurs espoirs aura lieu à Kitchener le 2 février. C'est un retour pour cette classique-là cette année parce que l'an passé, il n'y en a pas eu. C'est un match qui va être présenté à RDS et à TSN le 2 février prochain. En passant, les gens demandent quand est-ce que l'horaire des matchs à RDS de la Ligue junior majeure du Québec va être publié. Après les fêtes. On va avoir des matchs à la grille horaire après les fêtes. On n'est pas encore en mesure de publier un calendrier complet, mais je vous le dis, ça va venir après le championnat du monde de hockey junior. Alors, restez branchés. C'est sûr qu'aussitôt qu'on va pouvoir, on va vous l'annoncer. La Ligue canadienne a aussi publié l'horaire du tournoi de la Coupe Memorial. Il y a un gros changement, c'est que la finale va avoir lieu le lundi soir au lieu du dimanche après-midi. Ça, c'est un gros changement. Donc, on va couronner le champion canadien de hockey junior cette année le lundi 13 juin. Déjà, on savait que la Coupe Memorial avait été déplacée dans la première semaine de juin. Là, on va repousser le calendrier d'une journée. Au lieu de commencer le vendredi, on va commencer le samedi. Ce qui veut dire que la demi-finale la semaine suivante, au lieu d'être le vendredi, va être le samedi. Il y aura journée de congé le dimanche et la finale le lundi soir, encore une fois sur les ondes de TSN et RDS. On veut un peu, d'une certaine façon, accommoder les réseaux de télévision et aussi faire un peu comme le March Madness. Le March Madness au basketball, la finale est toujours le lundi soir. Alors, je pense que ça peut être intéressant de faire comme un peu de cette façon-là aussi. Vendredi à Ottawa, le U17, qu'on a nommé cette année le défi de la capitale, va s'amorcer. Ça va durer 5 jours dans la capitale nationale. Évidemment, on n'a pas pu cette année faire un défi mondial des moins de 17 ans comme les dernières années parce qu'on ne peut pas amener, en raison de la COVID, les Russes, les Suédois, les Finlandais, etc. Alors, 3 équipes canadiennes, les rouges, les blancs, les noirs, 66 joueurs divisés en 3 équipes de 22, vont compétitionner là-bas, plus l'équipe nationale féminine qui se prépare pour les Jeux olympiques de 2022. Donc, ça va être intéressant de compétitionner avec l'équipe des femmes. Vendredi à midi, ça commence au centre municipal d'Ottawa, à la place TD. Alors, je serai là pour aller faire un petit tour. On fera des entrevues. On aura l'occasion de vous en reparler lundi prochain et suivez également le 5 à 7 au cours de la fin de semaine. On va parler de ça assurément. Philippe Boucher, directeur général des Voltigeurs de Drummondville et le grand patron de la division des moins de 17 ans au Canada cette année. Alors, on sera en mesure sûrement de vous donner le compte rendu. Il y a 19 joueurs qui appartiennent à la Ligue junior majeure du Québec qui sont impliqués, qui sont invités dans ce groupe de 66 joueurs. Coup de chapeau également au collègue David Arsenault avec son livre sur la carrière d'Yvon Lambert, un glorieux au cœur de la dynastie. Ça s'en va en deuxième impression. Je veux saluer David, Yvon Lambert. Félicitations pour cet ouvrage. J'espère que vous aurez l'occasion de dévorer ces pages-là pour ceux qui ont trippé comme moi sur la dynastie des Canadiens dans les années 70. Il y a plein de bonnes choses là-dedans. Dernier petit message avant de vous laisser, je veux offrir mes sympathies, mes sincères condoléances à la famille de M. Gaston Bean, qui est un monsieur de Jonquière qui m'a beaucoup aidé au début de ma carrière. Vous savez, j'étais étudiant au cégep de Jonquière là, à la fin des années 80 et j'ai été embauché par l'équipe Midget 3A du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'appelait à l'époque les Cascades, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom des élites de Jonquière. C'était une nouvelle concession qui avait été lancée en 87-88. J'avais travaillé un peu à l'aréna pour les matchs locaux en 87-88 comme étudiant, mais pendant 2 saisons, 88-89 et 89-90, j'étais le relationniste de l'équipe, le statisticien, j'étais l'annonceur maison aussi. Et M. Bean, M. Gaston Bean, qui malheureusement est décédé le 10 novembre dernier, faisait partie du groupe qui m'avait embauché, qui m'avait donné cette chance-là. Alors, à toute sa famille, à M. Bean, son fils Jean-François, j'offre mes sincères condoléances. Vous savez, c'est important dans la vie de se rappeler d'où on vient. Moi, j'ai commencé dans le hockey vraiment là, dans la fin des années 80 avec les Cascades du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui sont aujourd'hui les élites de Jonquière. Alors, ça a toujours occupé une place importante dans mon cœur. Et quand j'ai vu cette nouvelle-là sur M. Bean la semaine passée, ben, j'ai trouvé ça très triste. Alors, je voulais saluer tout ça, tous ces gens-là qui étaient là au départ, là, messieurs, ceux qui m'ont donné cette chance-là de travailler dans le hockey au début lorsque j'étais encore aux études et qui ont fait en sorte de paver la voie un peu à mon cheminement. Quand je suis arrivé à RDS en stage, on m'a dit « Tu connais ça un peu le hockey junior, toi? » Ben, je dis « Écoute, ça fait 2 ans que je suis le hockey midget, alors c'est sûr que j'avais une bonne base. » Ça l'a contribué à tout ça. Alors, encore une fois, bon courage à la famille de M. Gaston Bean que je salue. C'est tout pour notre émission cette semaine. Merci à Félix Payet à la technique qui était là, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche. Mes invités, Alex Belzile du Rocket de Laval, Serge Thériault du Titan de Caddy Bathurst et Jacob Gaucher du Drakkar de Baie-Comeau. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.